La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30. Eh bien, bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'Étagère. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec Fabrice Langrenier, qui est chercheur en histoire à l'Université d'Oxford, mais aussi au Centre d'Histoire Sociale des Mondes Contemporains de l'Université Paris 1. Eh bien, Fabrice Langrenier, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes l'auteur d'un ouvrage très intéressant qui s'appelle « Voisins de passage, une micro-histoire des migrations » qui est paru très récemment aux éditions de La Découverte. Et ce qu'on voulait vous inviter, parce qu'on trouvait votre ouvrage vraiment très intéressant, parce que c'est un peu, en la matière, c'est un peu... pas une sorte d'ovni, mais ça c'est vraiment très original par rapport à ce qu'on peut lire en général d'études ou d'histoire sur l'immigration. Et vous avez choisi une méthode assez intéressante, c'est un immeuble à la plaine Saint-Denis, voilà, de plusieurs entre le 92 et le 102 avenue de Paris à la Seine-Saint-Denis. Et dans une unité de temps aussi restreinte, entre 1882 et 1932. Et voilà, donc vous avez en gros, hein, on voit l'histoire de, en gros, hein, 4845 personnes qui ont vécu successivement au long de ces 50 ans, qui sont même des parcours migratoires, autant internes donc de la France que l'externe, que d'étrangers, d'Italie, d'Espagne ou autres. Et donc c'est vraiment très intéressant comme choix un peu méthodologique. Vous avez aussi consulté beaucoup d'archives. Et vous avez aussi enquêté sur les descendants de ces personnes. Et donc, si vous voulez un peu nous dire pourquoi vous avez choisi une telle méthodologie pour faire cette micro-histoire des migrations.
Bien sûr. Alors, choisir de faire l'histoire des migrations par un prisme comme celui-ci, c'est-à-dire de réaliser ce que l'on appelle dans la discipline historique une micro-histoire, en partant des vies singulières d'un nombre d'individus restreints. Alors ça peut être un individu, une famille, un village, et en l'espèce, je me suis concentré, comme vous venez de l'expliquer, sur les occupantes et les occupants d'une unité d'habitation, on va dire un immeuble pour simplifier, même si au cours du demi-siècle étudié, la parcelle concernée s'érige d'une multiplicité de constructions à l'arrière des immeubles de façade, donc qui en réalité en font une sorte de cité ouvrière, comme on disait alors. Eh bien, s'intéresser à l'histoire sociale et culturelle des migrations en partant des individus, cela permet de voir à l'œuvre un certain nombre de dynamiques, d'itinéraires, un certain nombre de rapports de force également, de rapports de domination, qui ne sont pas visibles lorsque l'on s'en tient à une échelle beaucoup plus importante, une échelle macroscopique, qui épouserait la dimension d'une région, du pays tout entier, ou encore de l'Europe, etc. C'est-à-dire que une échelle d'analyse permet de voir des choses qu'on ne voit pas à l'autre échelle. Donc ça ne disqualifie évidemment pas l'intérêt des grandes statistiques, des grandes conclusions à partir de faits stylisés, si vous voulez, à une échelle plus vaste, mais cela permet d'enrichir notre compréhension de l'expérience migratoire à cette époque-là, il y a 100 ans et un peu plus, pour savoir comment ça fonctionnait sur le terrain.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous remettez un peu en... vous questionnez un peu l'habituelle lecture par groupe migratoire, on va dire, classé de façon plus ou moins ethnique, et voilà, qui essaye de coller une identité qui serait un peu, disons, enfermante, alors que vous dites que ça peut, il y a beaucoup de croisements qui peuvent arriver, et que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que plutôt que de prendre les lectures par groupe migratoire tel qu'ils sont étudiés depuis belle lurette par les historiens de l'immigration, et ben du coup votre lecture, même si c'était pas votre objectif, je sais pas si c'était votre objectif, mais ça permet de décloisonner cette lecture et de voir qu'il y a d'autres choses, de voir avec notre lunette, c'est la socialisation de ces personnes, comment ils vivent au-delà de juste une approche par groupe migratoire un peu enfermé dans une définition un peu trop stricte et fixe. Et ça, c'était assez intéressant.
Oui, alors précisément, un des objectifs de la recherche sur laquelle se fonde cet ouvrage, c'était précisément d'essayer de mesurer l'incidence dans la vie de ces gens finalement ordinaires des classes inférieures, des classes ouvrières à l'époque, qui dans cette banlieue nord de Paris était donc vous l'avez rappelé dans la plaine Saint-Denis était majoritairement des migrants puisque c'était un quartier tout neuf, des migrants internes, des migrants internationaux. Eh bien, mesurer l'incidence dans la vie de ces gens de l'origine et des identités ou des identifications, comme disent les sociologues aujourd'hui, fondées sur eh bien, un critère d'origine géographique, mais plus souvent d'origine formulée en termes ethniques, en termes nationaux, en termes raciaux également, par rapport à d'autres logiques. D'accord ? Au quotidien, est-ce que si vous êtes une femme... je ne sais pas moi, originaire du Midi toulousain ou bien du nord de l'Espagne et que vous travaillez, vous habitez là à la plaine Saint-Denis dans cet immeuble et que vous travaillez 14 heures par jour dans l'usine qui est en face ou bien que vous ne travaillez pas à l'usine mais que vous faites la cuisine deux fois par jour, que vous lavez les vêtements de la famille au lavoir, que vous vous occupez des enfants, de faire le ménage, de faire les courses, d'aller acheter les denrées de première nécessité à la coopérative à côté, etc. Est-ce que vous avez le temps de formuler vos solidarités ou vos antagonismes, c'est-à-dire votre bonne entente avec votre voisine de palier ou bien votre aigreur à l'égard du concierge, en des termes qui sont des termes ethno-nationaux, des termes raciaux, etc. Autrement dit, est-ce que le discours qui à l'époque est très présent chez les élites, c'est l'époque de l'affaire Dreyfus, c'est l'époque de l'anthropométrie raciale, c'est l'époque de la construction nationale qui bat son plein en Europe, en France, mais aussi ailleurs, pour cimenter, pour solidifier une citoyenneté qui est fondée sur l'appartenance à la nation. Est-ce que ça a un effet au quotidien, dans les confrontations, dans les liens sociaux, dans les préférences, on y reviendra, les préférences amicales ou matrimoniales, et la réponse que ce livre essaye d'apporter, c'est que bien sûr, oui, ça a une incidence qui parfois est grande, mais ça dépend. Ça dépend des moments, ça dépend des circonstances, ça dépend des autres critères de distinction et de différence sociale auxquels cette histoire d'origine se conjugue. Et ces autres critères de distinction, eh bien, on le sait aujourd'hui parce que les historiens et les chercheurs en sciences sociales s'y intéressent de plus en plus, c'est les rapports de genre, par exemple, entre hommes et femmes, les questions d'âge également, qui sont très présentes dans le livre, entre les enfants et les adultes, le milieu social, la classe sociale, bien entendu, et tout un tas d'autres logiques qui viennent se combiner ou se télescoper et donc renforcer ou amoindrir la valeur, l'impact de ces différences formulées sur une base ethnique, nationale ou géographique.
Et ça, c'est intéressant. Et j'ai vu une recension assez intéressante de votre ouvrage hein, par Jean-François Lay, qui était paru sur le site La Vie des Idées. Ça s'appelle, le titre, c'est « Par le carreau dépoli ». Et ce qu'il notait, c'est que ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'en suivant donc ces locataires là, de ces immeubles, en les suivant descendre les escaliers 10 fois par jour, partager les mêmes toilettes de la cour et les mêmes bars de la rue, on distingue mieux comment toutes les catégories que vous aviez citées elles fonctionnent. On distingue mieux les manières de s'identifier, de se différencier, de s'opposer ou de se reconnaître et ainsi d'agir en conséquence. Et bon, ça résumait un peu vraiment l'intérêt de la recherche. Je trouvais que c'était assez parlant.
Oui, alors en réalité, c'est le propre de cet exercice expérimental qui est un exercice de micro-histoire, comme on le disait à l'instant. C'est à partir du moment où, en tant que chercheur, vous plongez dans les archives en quête d'informations sur des individus et sur leur vie quotidienne, même si votre questionnement de départ, comme c'était mon cas, porte sur les identifications en contexte migratoire et donc l'intégration de ces personnes venues d'horizons différents dans un milieu industriel nouveau. En réalité, en faisant de l'histoire de cette façon, eh bien, vous pénétrez dans toute l'épaisseur de la vie quotidienne et du cycle de vie entier de ces personnes-là. Et donc, on ne peut pas distinguer une histoire des migrations comme celle-ci d'une histoire du quotidien, d'une histoire sociale, du travail industriel à cette époque dans une banlieue comme celle-ci qui devient un des poumons industriels de la France et de l'Europe. Il y en a d'autres, mais c'est un lieu qui est particulièrement criblé de multiples usines dans l'industrie métallurgique, l'industrie chimique, toute une kyrielle d'établissements industriels qui précisément ont besoin d'une main-d'œuvre abondante, et c'est pour cela que différentes origines se côtoient à la plaine Saint-Denis. Et donc, vous voyez, ça vous nécessairement l'enquête vit d'une certaine manière sa propre destinée et vous emmène sur le chemin de cette histoire sociale plus vaste. Et donc, qu'est-ce que mangeaient les gens, quand se rencontraient-ils comme voisins dans l'immeuble, quand allaient-ils au bistrot, qui allait au bistrot, était-ce plutôt les hommes, plutôt les femmes, les enfants y étaient-ils admis? Est-ce que, pour essayer de repérer, voyez, les multiples facteurs de rassemblement et de distinction et les lignes de fracture qui pouvaient séparer les gens, tout cela pour avoir une meilleure lecture plus fine des moments précisément où c'est l'origine qui vient fragmenter le tissu social. Et de cela, il n'y a pas de meilleur exemple, je pense, que pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, où là, effectivement, être un ressortissant français ou belge en août 1914, ça n'est pas du tout pareil qu'être un ressortissant espagnol ou italien, n'est-ce pas? Et donc là, l'appartenance réelle ou perçue ou imposée, même si vous ne vous en réclamez pas, elle va être cruciale et entraîner, si vous voulez, des distinctions majeures, y compris jusque dans la chair et dans les familles de l'individu concerné. Et pour autant, y compris pendant la Première Guerre mondiale, c'est ce que le livre essaye aussi de montrer, eh bien ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi monolithique, ce n'est pas la nationalité qui va déterminer votre sort tout entier, précisément parce que les acteurs ont des stratégies à mobiliser. Il y a toute une gamme de statuts que les autorités françaises et étrangères mettent en place pendant la Première Guerre mondiale, qui font des distinctions entre les personnes. Et donc même les hommes français, on le sait, les historiens l'ont montré, mais ils peuvent être détachés en usine, à l'arrière, etc. Les Italiens sont soit appelés au front à partir de l'entrée de leur pays dans le conflit au printemps 1915, mais eux aussi, pour certains, sont laissés à la disposition du complexe industriel et militaire français. Et donc tout cela trace finalement de nouvelles lignes qui rejouent avec celles qui préexistaient et qui créent de nouveau des alliances de circonstances, des animosités entre les personnes, une nouvelle formulation de la masculinité et donc par contraste du féminin aussi, bien sûr, pendant ce premier conflit mondial à l'arrière. Et donc, vous voyez, même dans un moment paroxystique de mise en œuvre des affiliations nationales, le livre, au plus près des voisins, au plus près de d'itinéraires singuliers, dans un lieu très précis, permet de complexifier notre compréhension de ces rapports sociaux et de ces vies dans le premier tiers du XXe siècle.
On va faire la première pause musicale. We'll be right back. Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. On vient d'écouter Tommy McCook et les Scatterlights, et le titre du morceau, c'est Peanut Vendor. Eh bien, on poursuit notre entretien avec Fabrice Langrenier à propos de son livre Voisins de passage, une micro-histoire des migrations, qui est paru aux éditions de La Découverte. Et ce qui était. Voilà, donc on va un peu parler de ce qu'il y a aussi dans du contenu du livre, enfin de certaines parties. Alors. Vous parlez de déjà de vu qu'ils sont venus un peu pour travailler ces migrants, un peu de comment ça se passe au travail, et en gros vous dites que leur c'était assez différent parce que la fin du 19e siècle avait une assez grande diversité dans les emplois, mais au premier quart du 20e siècle il y aura plutôt une spécialisation dans une usine de verrerie qui est à côté, et ainsi que dans les industries lourdes, plutôt que l'emploi du 19e siècle qui était plutôt dans les manufactures traditionnelles. Voilà. Donc ça pousse quand même à une certaine diversification professionnelle de la main-d'œuvre. Par contre, vu que vous avez un peu travaillé sur les archives, vous ne savez pas trop combien d'entre eux étaient des ouvriers qualifiés ou non, parce que dans les archives que vous avez consultées, les métiers étaient décrits ou par rapport au niveau de rémunération, ou par rapport à la nature des métiers, mais pas par rapport à la qualification. Donc on ne sait pas s'ils étaient beaucoup qualifiés ou pas. Mais par contre, au niveau du salaire, ce qu'on savait, c'est que s'il n'y avait presque pas de chômage et qu'ils travaillaient presque tous, par moment, le salaire, ça ne faisait pas un rempart face à la misère. Donc ce n'était pas évident pour eux. Donc c'était un des motifs principaux de leur migration, c'était de chercher du travail. Mais, c'était le principal motif. Mais ce qui était aussi intéressant, qu'au-delà de ce qu'ils faisaient comme travail, c'était comment ils s'organisaient, ils s'y prenaient pour émigrer. Donc avec... soit par rapport à des liens familiaux, soit par rapport avec des réseaux et tout ça. C'est assez intéressant comment vous racontez aussi les stratégies migratoires qui sont mises en œuvre. C'était assez intéressant dans votre ouvrage, je trouve.
Oui, alors sur le premier volet de ce que vous venez de dire, sur le travail, évidemment que c'est au cœur de ce livre, puisque c'était au cœur de la vie de ces gens d'autrefois, qui, dès l'âge de, en réalité, 10-11 ans, étaient bien souvent appelés à travailler, alors parfois à la maison, mais le plus souvent en usine, dans un contexte comme celui-là. Ceux qui ont migré plus tard dans leur vie vers ces centres industriels, eh bien, à la fin du 19e siècle, ont découvert les travaux des champs, bien sûr, pour les ruraux, à un très jeune âge également. Et cette verrerie que vous mentionnez, elle est intéressante à double titre. D'une part, parce qu'elle est, aujourd'hui encore, elle peut évoquer quelques souvenirs ou un certain éclat chez les amateurs d'objets d'art, puisqu'il s'agit de la verrerie Legras, du nom de son fondateur, Monsieur Legras, au milieu du 19e siècle. Dont aujourd'hui les pièces en verre s'échangent à plusieurs milliers d'euros. Vous voyez les carafes, alors c'est d'un goût qui date désormais, les carafes, des objets peints, gravés, embossés. Donc ça, c'est le côté émergé de cette verrerie qui a disparu dans les années 50, mais qui était forte d'un grand succès, à la fois en volume et en qualité. Et puis le côté plus sombre qu'on connaît moins bien, ben c'est que dans l'industrie verrière comme dans l'industrie minière, je viens de le rappeler, la main-d'œuvre infantile était particulièrement exploitée pendant des siècles, à partir du 16e, 17e siècle, à l'émergence de ces industries lorsqu'elles étaient encore, comme vous le dites, des manufactures au tout début de l'ère industrielle. Et à la fin du XIXe siècle, en France, mais aussi ailleurs en Europe, lorsque les États européens commencent à adopter des législations sociales pour protéger les droits, les premiers droits sociaux des ouvriers, et en particulier des populations vulnérables que sont les enfants et les femmes, lorsque parmi ces lois sont prises des restrictions sur l'âge minimal auquel vous avez le droit de travailler en usine. Donc en France, c'est la grande loi de 1892 qui interdit l'emploi en usine en dessous de l'âge de 13 ans. Eh bien, les maîtres verriers et aussi les patrons des mines, des mines de charbon, s'insurgent et considèrent que c'est une atteinte à ce qu'on appellerait aujourd'hui leur business model et toute leur architecture, si vous voulez, industrielle, puisque cette main-d'œuvre infantile, elle est pas chère, elle est fournie aisément par les ouvriers en place qui mettent leurs enfants au travail, et elle permet de former des apprentis. Vous voyez, en payant très peu, vous prenez l'apprenti à 8-9 ans, et 10 ans après, à supposer qu'il ait bien sûr survécu en bonne forme, il est un ouvrier tout à fait bien formé pour prendre le relais des adultes dans l'usine. Et donc, c'est précisément ces réglementations qui sont à l'origine d'une des dynamiques migratoires de la plaine Saint-Denis, ou en tout cas de ce quartier, si vous voulez, entre les magasins généraux, pour ceux qui connaissent un petit peu encore aujourd'hui le quartier de la plaine Saint-Denis, entre les magasins généraux le pont de chemin de fer de la ligne de chemin de fer qui va de Paris à la Belgique. Donc ce sous-quartier-là, une des raisons de sa diversification démographique et migratoire à la fin du XIXe siècle, c'est cette réglementation sur les enfants dont je viens de vous parler. Pourquoi ? Parce que le patron de la verrerie, M. Legras, comme tout un tas d'autres collègues, il n'est pas un des premiers en France, se dit « on va prendre des petits-enfants en Italie, des petits Italiens d'à peine plus de 8-9 ans, et les inspecteurs du travail français n'auront aucun moyen de savoir qu'ils n'ont pas l'âge légal. » Vous voyez ? Donc il y a cette histoire-là, que je ne vais pas déflorer tout entière, parce qu'en réalité, après les Italiens, viendra le tour d'enfants fournis par un homme ecclésiastique tout à fait intéressant qui figure dans le livre, qui lui est originaire des Pyrénées françaises, puis des enfants espagnols, etc. Mais il y a toute cette filière de travail illégal et d'importation illicite de main-d'œuvre infantile qui traverse ce livre et qui non seulement explique une part de la diversité migratoire dont on a parlé, mais qui place le lecteur véritablement au cœur d'une histoire industrielle. Ce n'est pas seulement d'ailleurs une histoire d'exploitation, là aussi c'est un peu plus compliqué. Il y a des abus qui ont à l'époque imprimé les mémoires et causé de grands scandales. Il y a aussi différentes parties, y compris du côté des familles et peut-être parfois même du côté des enfants, qui ont cautionné ce système d'entrée très précoce dans le travail industriel, à une époque où il était déjà en principe interdit pour les plus jeunes. Donc ça, c'est pour la partie, si vous voulez, industrielle et du monde du travail qui apparaît très clairement dans le livre à la lumière, une nouvelle fois, de certains cas individuels, de certains schémas, de certaines pratiques de travail à l'usine. Et pour la deuxième chose que vous évoquiez, évidemment, un livre sur les migrations comme celui-là, il n'est pas uniquement consacré aux migrations, mais puisqu'il l'est en partie, il fallait qu'il s'intéressât aux déplacements, aux mobilités à travers l'espace. Et l'une des choses qu'on ne voit pas souvent dans les livres d'histoire ou même de sociologie générale sur les migrations, ce sont les réseaux de solidarité, les réseaux interpersonnels. Ces réseaux interpersonnels, ce que le livre essaye de montrer, c'est qu'en se plaçant du nouveau de nouveau, pardon, du point de vue des individus, eh bien, on arrive à déceler les logiques très singulières, pas du tout prototypiques et pas du tout forcément répliquées d'une famille à l'autre, les logiques qui vont conduire les uns et les autres à se rendre dans un pays lointain, qui peut être un pays étranger à proprement parler, pour les Italiens, les Espagnols, les Belges, les Grecs qui arrivent à la plaine Saint-Denis, ou bien des gens originaires de provinces très lointaines, comment vont-elles faire? Sur quelles personnes vont-elles s'appuyer pour trouver un logement, trouver un emploi à l'arrivée et finalement s'intégrer pendant quelques temps dans ce contexte industriel. Et donc, voilà, sur les réseaux, c'est très important d'avoir cette vision précise, d'essayer de cartographier en détail un certain nombre de réseaux migratoires et de pas juste jeter l'idée, voyez, comme ça, en supposant que hier comme aujourd'hui, les gens eh bien, ont forcément des contacts et ça, c'est évident que ça, la migration fonctionne de cette façon-là. Oui, certes, mais comment ça marche? Qu'est-ce qui entre en jeu? Quelle solidarité? Des solidarités de famille? Bon, oui. De village? Des solidarités régionales? Des solidarités nationales? Comment ça marche ensuite? Pour faire les démarches auprès de l'administration française, une fois que vous êtes là, qui va vous aider? Est-ce que vous allez payer des gens? Comme on sait que ça peut être le cas aujourd'hui. Quelles sont les figures d'intermédiaires? Donc c'est vraiment toute cette richesse qui apparaît lorsque vous soulevez, si vous voulez, le voile sur ces vies individuelles.
Et ça, c'est assez intéressant. Et il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est par rapport à ce que vous parlez, que ces migrants, donc soit de l'intérieur ou de l'étranger, arrivent à la plaine Saint-Denis, ils trouvèrent, vous dites, parfois des affinités plus ou moins sélectives. Et donc, vous avez un peu étudié les registres de mariage. Et vous dites que ça contient des informations importantes pour étudier cette réalité. Et par exemple, vous parlez que ça permet d'évaluer l'incidence des démarcations sociales, qui se marie avec qui, combien de gens épousent de nouveaux venus d'un milieu différent du leur, etc., etc. Et vous vous basez un peu sur ce que vous appelez un peu l'écart d'origine. Est-ce que vous pourrez un peu développer là-dessus?
Oui, alors, J'ai particulièrement étudié ces registres d'état civil que vous connaissez bien, comme chacun d'entre nous, c'est-à-dire que ça fonctionnait plus ou moins comme aujourd'hui, déjà à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a des registres municipaux qui enregistrent les naissances, les décès et les mariages. Et ce sont des sources qui sont bien connues des historiens du social, de la démographie historique aussi, pour essayer de comprendre à quel âge on se marie, qui se marie avec qui du point de vue des milieux sociaux et aussi des origines. Mais alors le problème, c'est que donc dans une enquête comme la mienne, où j'aimerais savoir si l'origine joue un rôle dans la vie des gens, concrètement un rôle. Est-ce que c'est un des critères qui fait, par exemple, que vous allez vous marier avec quelqu'un ou développer une amitié avec quelqu'un? Est-ce qu'on peut essayer de déceler de manière qualitative ou si on analyse toute une série de données de manière statistique, est-ce qu'on peut voir cet impact, cette préférence que vous allez accorder aux gens originaires du même endroit que vous? Alors après, il faut définir qu'est-ce qu'on entend par là, le même patelin, la même région ou le même pays. Et pour ce faire, on peut prendre les registres de mariage. Les registres de mariage, c'est deux époux, d'accord? Donc les deux époux, eh bien leur origine à l'époque était toujours, leur commune de naissance était toujours mentionnée, n'est-ce pas? Avec un certain nombre d'erreurs, évidemment, de transcription, surtout pour les lieux de naissance à l'étranger. Mais passons sur ce détail. La question, c'est que classiquement, les historiens ont eu tendance à classer ces mariages sur un critère de mixité très standard, voyez. Donc si une Française épouse un Italien, bon, je le mets dans mes mariages mixtes. Si c'est deux Français, c'est pas mixte. Voyez. Et moi, je me suis dit, ça, c'est trop imparfait comme mesure, cette nationalité, notamment parce que dans le contexte de la plaine Saint-Denis, eh bien, tout un tas de personnes sont originaires des confins orientaux du territoire français, qui ont récemment été, pour une part, annexés par l'Empire allemand en 1871. Donc ces gens, ils sont originaires d'où ? Ils sont originaires de France, certes, ils sont alsaciens mosellans, mais originaires de ce qui est aujourd'hui l'Empire allemand. Alors, donc, vous voyez, des personnes, mais ça marche aussi au Pays Basque, à la frontière espagnole. Comment vous allez mesurer en réalité le degré de proximité entre les deux époux, et ensuite je les refais entre chaque époux et leurs témoins respectifs, autrement que sur cette base un peu arbitraire et un peu compliquée en plus à mettre en œuvre de la nationalité que vous leur attribuez. Eh bien, moi j'ai proposé de passer tout simplement par une métrique différente qui tient aux coordonnées géographiques de du lieu de naissance, et donc de mesurer à chaque fois l'écart, tout simplement la distance entre les lieux de naissance des deux époux, ou bien de l'époux et de son témoin, pour en dériver, vous voyez, des conclusions, alors certes partielles, certes très liées à la qualité de mon échantillon et à la population que j'étudie dans ce livre, mais des conclusions, me semble-t-il, intéressantes sur l'ouverture progressive, l'ouverture des préférences et la nature de ces préférences. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens, eh bien, ça on pouvait s'y attendre, mais ont tendance au départ, quand ils viennent d'arriver, à se marier ou choisir leurs amis dans un cercle extrêmement restreint de gens, non pas compatriotes au sens large, mais de gens issus du même village, ou en tout cas de la même sous-région, vous voyez, sur un rayon de quelques kilomètres qu'eux-mêmes, que là d'où ils sont issus dans leur pays d'origine. Et puis, ces rayons de solidarité, si je puis dire, s'étendent avec le temps, et on ne distingue, en tout cas, pas dans tous les cas, ça peut être le cas pour les Espagnols, et c'est ce que je montre dans le livre, mais dans d'autres cas, on ne distingue pas de préférence marquée pour les gens qui sont vos co-nationaux par rapport à un Français venu de Bretagne ou du Nord ou un Belge, etc. Vous voyez ? Donc ça permet aussi de relativiser ce qu'on pense souvent, surtout lorsqu'on se retourne sur cette histoire il y a plus de 100 ans, qui est que, eh bien oui, naturellement, les gens restaient par affinité fondée sur leur origine, jusqu'à ce qu'ils deviennent citoyens français, et puis que sur plusieurs générations, l'école et l'acculturation fassent disparaître tout cela et mélangent tout le monde. En choisissant un immeuble où les gens sont mélangés et en travaillant sur des sources pour repérer précisément leurs affinités, leur disposition au mélange, si vous voulez, eh bien, on peut avoir une interprétation plus fine, plus contingente, moins stéréotypée de ce qui motivait les gens à tisser un lien avec quelqu'un d'autre.
Eh bien, on va faire la seconde pause musicale. Thank you. Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On vient d'écouter toujours Tommy McCook et les Scatterlights, et le titre du morceau, c'est Sovitz. On va poursuivre donc notre entretien avec Fabrice Langrenier par rapport à son livre « Voisin de passage, une micro-histoire des migrations » qui est paru aux éditions de La Découverte. Et donc, on s'est un peu intéressé au réseau migratoire, on s'est un peu intéressé aux affinités sélectives de ces migrants. Mais ce qu'on n'a pas vu, maintenant, on aimerait peut-être aussi s'intéresser aux interactions entre eux, joyeuses et même parfois de conflictuelles. Et. Par exemple, en tant que migrant, il peut y avoir des termes dépréciatifs pour les Italiens qui se faisaient parfois traiter de macaroni, même si dans ce que vous avez étudié, il n'y avait pas trop de. Il n'y a pas eu trop de enfin, vous ne relevez pas de cas de ce type, mais c'est quand même une réalité qui a pu exister à cette époque. Et en fait, vous cherchez à mieux connaître précisément s'il y a pu avoir des confrontations ou des querelles, quels ont été les motifs d'une querelle, est-ce que l'origine ethnique ou nationale a joué un rôle dans les épisodes agressions, altercations verbales ou physiques qui ont pu s'y dérouler, parce que quand même on est quand même à l'époque fin 10e, début 20e, quand même l'époque où c'est un peu des Apaches et voilà, ça existait pas mal ces épisodes-là à cette époque. Et voilà. Et ce que vous dites aussi, c'est que le caractère ethnique ou non ethnique d'un conflit, c'est d'autant plus important qu'une position qui peut s'interpréter comme ethnique par les personnes qui sont impliquées, eh ben, ça a la capacité de produire des groupes ethniques en tant que tel. Alors quand même, quand il n'y avait même pas de groupe ethnique, donc voilà, c'est quand même intéressant de s'y attarder. Et vous faites état d'un épisode qui avait défrayé la chronique. C'est le cas du 19 août 1900 où il y a eu une bagarre qui a suivi une fête annuelle à la Plaine Saint-Denis. Et comment c'était traité et par les médias et un peu la réalité de cette truc qui diffère pas mal du discours de certains médias, c'est quand même assez intéressant quand même cet épisode à noter. Donc si vous pouvez un peu en faire état pour nos auditeurs et nos auditrices.
Oui, alors évidemment, le pendant de ce qu'on a évoqué précédemment sur les affinités, sur les relations, comme vous le dites, joyeuses, positives, les solidarités, etc., c'est bien entendu toute une série de confrontations, d'hostilités, d'antagonismes plus ou moins ouverts qui émaillaient, comme ils émaillent toujours, la vie des gens à cet endroit-là, à cette époque-là. Et la question reste la même, c'est-à-dire quelle forme prennent ces violences verbales, ces violences physiques, et est-ce qu'on peut les rattacher à des facteurs, à supposer qu'on soit à même de le faire en trouvant les archives et en ayant une lecture critique solide pour pouvoir le déterminer aussi longtemps après. Et parmi ces facteurs, à supposer qu'on puisse les retrouver, quelle était la place, de la différence d'origine, qui dans sa version exacerbée prend la forme du racisme ou de la xénophobie, tout simplement peut être mobilisé un certain nombre de préjugés sur telle ou telle communauté d'appartenance, etc. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que la Plaine Saint-Denis, quartier industriel, quartier surpeuplé, avec toutes ces personnes migrantes, habitant toutes dans des appartements qui, à l'époque, ne font guère plus de 15 mètres carrés, D'accord? Il faut aussi se représenter les choses. 15 mètres carrés dans lesquels vous logez vous-même, votre conjoint, vos enfants qui peuvent être 3, 4, où vous trouvez parfois même la place de loger un pensionnaire pour compléter votre revenu de l'usine et ainsi vous aider la famille à mieux remplir la marmite et mieux payer son loyer. Donc évidemment, si à cette époque-là, comme aujourd'hui, si vous mettez autant de gens dans aussi peu d'espace et que vous les faites travailler autant et qu'il y a une concentration de, par ailleurs, de bistrots, qui est sans doute une concentration record dans l'histoire de France, ça met des étincelles un peu partout. Et donc c'était un quartier extrêmement violent. Vous avez évoqué les Apaches. C'est le nom que la presse et puis la postérité a donné à ces bandes délinquantes qui traînaient à proximité des fortifications de Paris pour faire la poche à différents types de passants et de commerçants et de voyageurs. Bon, ces bandes, elles étaient beaucoup moins redoutables que ce qu'on a longtemps dit chez les élites, mais en tout cas, elles existaient. Donc les jeunes ouvriers participaient parfois de cette violence semi-organisée, si vous voulez, de bandes de jeunes qui agressaient les gens. Mais la violence la plus commune, la plus quotidienne, elle est domestique, elle est pour un rien à l'usine entre collègues, elle est partout. Elle est entre les gens qui se connaissent bien, en réalité. Et donc, le travail de l'historien, ça va être d'aller dans les archives, trouver les traces, essayer de trouver le plus possible ces traces de la violence. Donc on a à notre disposition un certain nombre de dépôts qui sont particulièrement importants et incontournables. Les dépôts d'archives policières en particulier, les registres du commissariat du quartier ont été conservés dans leur intégralité pour la période qui nous intéresse. Ensuite, si l'incident est plus grave, eh bien, les archives judiciaires nous apporte des compléments d'information. Et puis, vous l'avez évoqué, cette histoire de médias, de presse, qui à l'époque joue un rôle majeur dans la société européenne, avec des tirages qu'on ne connaît plus aujourd'hui pour les journaux imprimés, la presse, avec les faits divers, les auditrices et les auditeurs de votre émission savent bien que cette période de la Belle Époque est celle de l'explosion des faits divers en tant que rubrique médiatique. Et ces faits divers peuvent aussi constituer une source. Mais alors, précisément, ce qui m'a intéressé dans ces divers incidents, c'est d'essayer d'y voir clair, de chercher ces facteurs de confrontation entre les personnes, entre les voisins. En prenant cette bagarre que vous avez mentionnée, de mesurer aussi l'écart entre une culture médiatique, une culture nationale, une rhétorique où les questions raciales et les questions ethniques sont particulièrement bien présentes. Hein. Encore une fois, on est en plein milieu de l'affaire Dreyfus, cette bagarre a lieu en 1900, on est dans un moment de colonisation particulièrement intense. On est dans une période où la société, du point de vue des penseurs, des élites, des autorités parisiennes, se structure dans leur tête sur un mode racial, national, ethnique. Et donc, cette rixe, qui implique plusieurs habitants de l'immeuble sur lequel j'ai travaillé et d'autres ouvriers de la plaine Saint-Denis, à l'occasion, en marge de la fête foraine qui se tenait ce soir d'été 1900 sur l'avenue principale du quartier, eh bien, elle a été immédiatement interprétée par la quasi-totalité des journaux locaux et nationaux comme étant un conflit entre Français et Italiens. Un conflit, alors que les socialistes vont interpréter comme un conflit regrettable entre les ouvriers pour des raisons salariales, alors qu'en réalité, les vrais ennemis, ce sont les patrons. Que les conservateurs xénophobes vont interpréter comme, bien sûr, un énième conflit entre Français et Italiens, puisque les Italiens n'ont qu'une envie, c'est de jouer du couteau et de laisser libre cours à leur folie furieuse de race inférieure. Mais ce qui n'est pas mis en question chez ces différents organes de presse, c'est la nature internationale ou interethnique du conflit entre les participants à coups de revolver, de couteau, etc. Ce soir-là, il est tenu pour acquis qu'on se bat en camp opposé sur une base ethno-nationale. Et en réalité, on va pas forcément déflorer le résultat de cette enquête dans l'enquête pour vos auditrices et vos auditeurs, mais je montre que c'est plus compliqué que cela. Une nouvelle fois, en serrant la focale et en s'engageant dans un vrai travail de détective sur les traces des participants à l'échauffourée, eh bien, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe, que les raisons pour lesquelles ces gens-là se sont tapés dessus ce soir-là ont beaucoup plus à faire avec des rancœurs accumulées au fil des années, avec justement des histoires de bandes rivales délinquantes, avec des enjeux de masculinité particulièrement ombrageuse. Et voilà. Et donc ça permet une nouvelle fois de complexifier le tableau. Ce qui ne veut pas dire que cette interprétation classique des journaux sur un mode national n'a aucune influence. Comme vous le disiez en introduction de ce thème, cadrer les choses sur un mode ethnique ou national, ça peut avoir un effet. Et les participants eux-mêmes ont sans doute lu les journaux à propos de la bataille. C'était en page 2 ou 3 des grands quotidiens nationaux. Ça a pu affecter même chez eux leur propre lecture de ce qui s'était passé. Et donc, renforcer ou contribuer à construire ces solidarités ethniques ou nationales. Mais en réalité, nous, la tête froide, il ne faut pas qu'on soit dupes et que rétrospectivement, on joue le même jeu en plaquant des codes qui ne sont pas des codes issus du terrain, si vous voulez, qui ne sont pas les vraies raisons historiques à l'origine d'un épisode comme celui-là. Donc ça permet, vous voyez, de mesurer des écarts et une nouvelle fois de chercher quelle dynamique prévale à quel moment dans la vie des individus.
Et pour en venir à cette question de différenciation de ces individus selon des critères dits ethniques, nationaux ou autres, vous dites que la fabrique de cette différence, c'était pas tant sur les interactions, les contacts entre les locataires de l'immeuble, entre les voisins, contacts qui soient positifs ou négatifs, mais que ça dépendait pour une grande part de l'intervention des institutions publiques. Parce que ces institutions publiques, elles n'eurent de cesse de forger des différences de nationalité ou de citoyenneté entre ces différents locataires issus d'immigration. Donc ça, c'était quand même un important à dire, parce que vous avez dit au départ, je pense qu'à cette époque, au tournant du XXe siècle, le nouveau discours national auquel les États et les élites qui développaient, ça a pu éloigner beaucoup de parties de la population, mais ça a pu aussi en rapprocher d'autres. Et voilà ce qui intéresse. Et voilà, des fois il y a eu beaucoup d'effets, des fois il y a eu pas d'effets. Et ce qui est intéressant, c'est de quelle manière, au fil des ans, les habitants de cet immeuble, ils ont été en mesure d'agir sur ces identifications officielles. Ils ont été en mesure, par exemple, d'y résister, ou de les négocier, ou encore de les subvertir. Et voilà, ça, c'est assez intéressant aussi à voir dans votre enquête. Enfin, c'est ce que vous posez un peu comme préalable, quoi.
Oui, ben, effectivement, on a peu évoqué pour l'instant dans la discussion ces acteurs majeurs du grand manège des identités, que sont les États. L'État, non seulement d'immigration, donc en l'occurrence, c'est l'État français, qui a tout intérêt à fabriquer du français. Donc il y a toute la question aussi de l'accession à la citoyenneté. Pourquoi il a tout intérêt ? Eh bien, parce qu'on est à une période qui va se prolonger d'ailleurs après la Première Guerre mondiale, mais où on prépare toujours le prochain conflit. Donc naturaliser les gens, ça permet de fabriquer des futurs soldats. Donc il y a tout cet enjeu-là. Mais les États d'origine des migrants, que ce soit en l'occurrence l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, ont aussi un intérêt à maintenir des allégeances là encore pour des considérations militaires, mais pas seulement, des considérations aussi commerciales et puis culturelles, etc. Et donc il y a une compétition qui s'installe entre ces États à l'époque pour venir, si vous voulez, faire office d'entrepreneur, comme le disent les historiens, d'entrepreneur du national. Mais les gens ne sont pas condamnés à être victimes de ces discours, ils ne sont pas si bêtes que ça, et eux-mêmes, ils ont leur propre stratégie, leur propre tactique d'évitement ou de résistance, comme vous disiez, et donc eux, ils n'ont pas forcément envie d'aller faire leur service militaire dans leur pays d'origine, ils n'ont pas forcément envie de s'identifier de telle ou telle façon, de déclarer au recensement une nationalité qui dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Ils ont parfois envie d'aller voter alors qu'ils en sont en principe privés de ce droit de vote en France, ou ils ont envie de continuer à voter dans leur pays d'origine. Voyez. Et donc, du point de vue des droits, des devoirs et de l'exercice de ce qu'on commence à l'époque à appeler la citoyenneté politique, eh bien, là aussi, c'est un jeu assez complexe qu'il faut arriver à démêler entre l'envie des États et ce que le droit produit comme effet, et puis ce que la liberté des gens, leur marge de manœuvre, leur stratégie quotidienne produit également comme effet. Et ces deux lignes viennent parfois en concurrence et créer toute une gamme de droits, de devoirs, de pratiques qui sont dans l'entre-deux, qui sont dessinées de manière originale et des appartenances qui sont pas du tout monolithiques, là encore, et des loyautés qui sont multiples. Et tout cela, comme je le rappelais tout à l'heure, va être exacerbé dans le bouillonnement tragique que représente la Première Guerre mondiale.
Pour conclure, ce qu'on avait oublié de préciser, j'aurais dû le préciser dès l'introduction, mais ce que vous dites, c'est que l'immeuble que vous étudiez, ça, il n'a pas vocation à être représentatif de ce qu'était à l'époque et l'immigration et la vie des personnes migrantes. Voilà. Et bon, voilà. Mais c'était juste que c'était un outil intéressant, un moyen intéressant pour mener votre étude, mais que ça a vocation en rien à être représentatif de ce qu'a pu être la réalité de tous les migrants à l'époque.
Vous avez raison, et en même temps, je pense qu'il faut faire attention à la formulation, c'est-à-dire qu'il n'a pas vocation à être représentatif de ce qu'était l'expérience migratoire. Rien ne dit que c'est plus représentatif, ce que je décris dans mon livre, de la majorité des cas, vous voyez, à l'époque, de ce que c'est qu'être un migrant à Paris, en France ou en Europe à cette époque-là. Et en même temps, c'est représentatif, comme vous l'avez dit là, à l'instant, de ce qu'a pu être. C'est-à-dire, l'idée, c'est de montrer que c'est une version de ce que pouvait être la vie ordinaire pour des personnes issues d'origines diverses, etc. Et ne serait-ce que prouver que cette version est possible, ça enrichit notre récit. Vous voyez, ça permet d'avoir une vision moins stéréotypée et plus complexe. Ça ne veut pas dire qu'elle était majoritaire, elle était peut-être tout à fait minoritaire, ça, il faudrait comparer sur beaucoup de cas semblables et voir si les mêmes dynamiques se retrouvent. Mais l'idée, c'est, voilà, il y a une version, un autre récit, qui est possible, des gens qui vivent ensemble et pour qui l'origine n'est pas l'alpha et l'oméga de leur parcours et de leur vie quotidienne.
Eh bien, on vous remercie pour cet entretien, on vous souhaite une bonne continuation et on conseille à nos auditeurs donc, votre ouvrage de Fabrice Langrenier, Voisin de passage, une micro-histoire des migrations, paru aux éditions de La Découverte. Au revoir.
Au revoir, merci.
La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30.